RFE, recevez un message avec le pasteur Josette.
Bonjour bien-aimés, c'est pasteur Josette qui vous parle aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. Donc le titre de mon message, c'est « Tu seras tel que tu penses ». Lorsqu'il était sur la terre, le Seigneur proclamait constamment qui il était. Il disait « Je suis le Fils de Dieu, je suis le pain de vie, je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et à cause de cela, les gens religieux ne pouvaient pas le supporter, car ils disaient « Mais pour qui il se prend? Il n'est que le fils du charpentier ». Et non seulement le Seigneur proclamait qui il était, mais il faisait des miracles extraordinaires. C'est pourquoi ils l'ont mis à mort, en pensant qu'il le ferait taire pour toujours. Mes bien-aimés, nous savons tous que le Seigneur Jésus est ressuscité, et qu'aujourd'hui, il est assis à la droite du Père et qu'il intercède pour chacun de nous. Lorsqu'il est monté au ciel, il a donné un ordre à ceux qui croyaient en lui. Il leur a dit de continuer son œuvre ici-bas par leurs paroles et aussi par leurs actions. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont malades, pauvres et vaincus dans beaucoup de domaines de leur vie, si ce n'est pas tous. Malgré le fait que Jésus a tout accompli pour eux à la croix du calvaire. Ils vivent et se comportent comme si le supplice de la croix n'avait rien changé pour l'humanité et pour eux-mêmes. Les hommes, voyez-vous, depuis toujours ont été habitués à penser et à parler de manière négative. Résultat, ils n'expérimentent pas la bonté de Dieu pour leur vie. Et pourtant, il est dit que tous les croyants nés de nouveau sont de nouvelles créatures en Christ, que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17, c'est-à-dire que le moi pécheur n'existe plus, il est mort. Alléluia! Dieu nous a crucifiés il y a 2000 ans à la croix en même temps que Jésus. C'est sûr, nous aurons parfois des problèmes, des difficultés, dans nos corps, dans nos finances, dans nos foyers. Mais nous savons tous que cela est toujours provoqué par l'ennemi de notre âme. C'est pourquoi Dieu nous dit de renouveler nos pensées afin de ne pas vivre comme les gens du monde. Dans Romains 12, 2, il est dit « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer par un changement complet de votre intelligence. Vous pourrez alors apprendre ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et parfait. » Voyez-vous, mes amis, tous les hommes sont dirigés par leurs pensées. Et nous savons que les pensées de l'homme sans Dieu sont des pensées d'échec, de limitation, de mort, etc., etc. Dans Genèse 8, 21, il est dit que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises. Et dans Proverbe 23, 7, « Un homme est tel que sont les pensées de son âme. » Dans Hébreux 11, 19, il est parlé en disant d'Abraham que Abraham pensait que Dieu était puissant et cela lui fit imputer à justice. Il est bien évident, mes amis, que nos pensées ont une influence sur toute notre vie. Et non seulement cela est aussi une influence sur notre vie, mais aussi sur nos paroles. Lorsque, par exemple, nous pensons que le temps des miracles est passé, nous le proclamons. Et c'est pour ça que nous n'expérimentons pas de miracles. C'est pour ça que Jésus, il a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu n'as pas la foi que les miracles s'accomplissent encore, tu ne recevras pas de miracles. Tu recevras ce que tu croiras. Lorsque tu penses être un échec et que tu n'arriveras jamais à rien, eh bien tu le dis. Pourquoi moi je ne réussis pas, c'est tous les autres qui sont bénis et pas moi, etc., etc. Alors avec ta bouche, tu amènes la malédiction dans ta vie. Car tu es ce que tu dis que tu es, bien-aimé. Et ce que tu dis que tu es, c'est ce que tu penses que tu es, c'est ce qui est à l'intérieur de ton cœur. Chaque enfant de Dieu a un travail à faire dans sa vie pour que les choses obtenues à la croix pour eux deviennent réelles dans leur vie. Premièrement, nous devons renouveler nos pensées par la parole et ensuite proclamer cette parole sur notre vie. Ça ne sert à rien de confesser la parole de Dieu comme un perroquet si elle n'est pas enracinée dans mon cœur. Jésus a dit dans Marc 11, 23, « Si vous avez la foi en Dieu, vous pourrez dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Si vous ne doutez pas dans votre cœur, mais croyez que ce que vous dites arrive, la chose arrivera. Nous voyons, bien-aimés, ici que le Seigneur parle de la foi du cœur. Et il dit que si nous avons la foi dans nos cœurs, nous dirons à la montagne de se jeter dans la mer et elle le fera. La montagne, c'est les problèmes de la vie, c'est les difficultés de la vie. Et nous allons en rencontrer tout au long de notre vie. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens qu'il n'y aura plus de difficultés, qu'il n'y aura pas de combats, qu'il n'y aura pas de défis. Ça, c'est tout le monde qui a des défis et des combats. Mais la différence entre le chrétien et l'incroyant, c'est que nous, nous sommes appelés à marcher dans la victoire. Malheureusement, beaucoup de bien-aimés en Christ parlent constamment de leurs problèmes, de leurs maladies. Et ils ne parlent jamais aux problèmes, comme le Seigneur leur a dit. Pourquoi ? Parce que leurs pensées ne sont pas transformées par la parole de Dieu. Nous devons apprendre tout comme le Seigneur a dit « Je suis ». Premièrement, « Je suis sauvé ». Ephésiens 2, 5. Il est dit que nous étions morts spirituellement à cause de nos fautes. Il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Et au verset 3, nous étions destinés à subir la colère de Dieu, mais Dieu nous a sauvés à cause de son grand amour. Bien-aimés, nous tous qui sommes nés de nouveau, nous savons bien dans notre cœur que nous sommes sauvés, car le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes sauvés, que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et bien sûr, nous le proclamons avec notre bouche. Oui, je suis sauvé, je suis un fils, une fille de Dieu. Il ne viendrait à l'esprit d'aucun d'entre nous de demander à Dieu de le sauver, puisqu'il sait qu'il est sauvé. Déjà, nous savons tous, pour ceux qui sont à Christ, sans l'ombre d'un doute, que nous le sommes. Combien le monde entier nous dirait que non, vous n'êtes pas sauvé, vous ne faites pas partie, par exemple, de notre église, de notre religion. Vous savez que vous êtes sauvé, quelle que soit la dénomination à laquelle vous appartenez. Vous savez que Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur personnel. Deuxièmement, je suis. Colossiens 1, 13, 14. Il nous a en effet arrachés à la puissance des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc je suis quoi ? Je suis délivré de la puissance des ténèbres. Satan n'a plus aucun droit sur ma vie, c'est un fait, c'est accompli. Mais bien souvent, les chrétiens n'ont pas compris. Ils demandent à Dieu de les délivrer des attaques de l'ennemi, mais Dieu ne le fera pas. Puisqu'il l'a déjà fait, il vous a délivré de la puissance des ténèbres et vous devez le réaliser. Vous pouvez jeûner, vous pouvez faire tout ce que vous voulez pendant des jours et des jours pour être délivré. Vous avez été délivré. C'est un fait accompli. Lorsque Jésus est monté à la croix, je suis délivré de la puissance des ténèbres. Alléluia. Ce qui veut dire que Satan, ses démons, n'ont plus aucune autorité sur ma vie. Nous devons méditer ce verset avec notre cœur et le proclamer avec notre bouche. Et voyez-vous, Satan, il sera très obligé de partir. Dans 2 Corinthiens 5, 21, il est dit que le Christ était sans péché, mais Dieu l'a rendu solidaire de notre péché afin que nous puissions, que dans l'union avec lui, bénéficier de l'œuvre par laquelle Dieu nous a rendu juste. Romains 8, 1 et 2. Oui, maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Christ. C'est la loi de l'Esprit qui donne la vie par l'union avec Jésus-Christ qui m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Donc tu peux dire devant Dieu, devant les hommes, devant les anges, devant Satan, que tu es juste. Amen. Tu es juste. Amen. Tu es juste à cause du sang de Jésus. Et tu peux t'approcher maintenant de Dieu sans sentiment de honte ou de condamnation. Parce que Jésus t'a rendu juste lorsqu'il est ressuscité. Proverbes 11, 21. Et à cause de cela, il est dit que ta postérité est bénie, tes enfants sont dans la main du Seigneur et personne ne peut les arracher de sa main, car ils sont bénis. Parce que toi, tu es juste. Parce que je suis juste devant Dieu. À cause du sang de Jésus, non pas à cause de ma justice, parce que ma justice est souillée devant Dieu. Eh bien, Jacques 5, 16 nous dit que mes prières sont d'une grande efficacité devant Dieu à cause de la justice que Dieu m'a accordée à la croix du calvaire. Dans Proverbes 3, 33, parce que tu es juste, Ta demeure est bénie. Alléluia. Tu dois le proclamer. Tu dois le croire. Et tu verras la chose s'accomplir. Parce que tu es juste. Si tu crois pas que tu es juste, tu bénéficieras pas de toutes ces choses. Parce que tu es juste. Lorsque la détresse va s'attaquer à toi, Dieu va t'en délivrer. Alléluia. Et parce que tu es juste, tu es dans la main de Dieu. Ecclésiaste 9.1. Mais vous allez me dire, écoute Josette, tu ne sais pas combien de péchés j'ai commis. Eh bien là encore, Dieu te parle et il dit dans 1 Jean 1.9, si nous confessons nos péchés à Dieu, nous pouvons avoir confiance en lui car il agit de façon juste. Il pardonnera nos péchés et nous pardonnera de tout mal. Alléluia. Et dans Proverbe 11.33, parce que tu es juste, non seulement Dieu t'attend dans le ciel, mais tu vas recevoir aussi des rétributions ici-bas. Parfois, les gens pensent que les bénédictions sont pour le ciel. Oui, mais Dieu ne nous appelle pas à vivre comme des clochards ici-bas. Il veut nous bénir et nous bénir dans tous les domaines. C'est vrai, quand tu vas être au ciel, tu n'auras plus besoin d'être guéri. Il n'y a pas de malade là-haut. Tu n'auras plus besoin d'argent. Il n'y a pas de banque là-haut. Tu n'auras plus besoin d'être pardonné. Il n'y a pas de péché là-haut. C'est aujourd'hui que tu as besoin de ces choses sur la terre. C'est aujourd'hui, bien-aimé, que tu dois te saisir de ce que Christ a déjà accompli pour toi à la croix du calvaire. Je suis. C'est pas quand tu seras mort que tu pourras dire je suis. C'est aujourd'hui, je suis. Amen. Ésaïe 53:5. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Dans 1 Pierre 2:24, le Christ lui-même a porté dans son corps nos péchés sur la croix afin que nous mourions au péché et que nous vivions une vie juste. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis guéri. Amen. Pas je serai. Je suis guéri. Tu dois recevoir cela par la foi dans ton cœur. Alléluia. Lorsque nous prions Dieu, nous l'avons vu, nous demandons au Seigneur de nous ne demandons pas au Seigneur de nous sauver, mais nous le remercions parce qu'il nous a sauvés. Nous savons que nous sommes sauvés et nous le remercions. Alors pourquoi, lorsqu'il s'agit de guérison, n'agissons-nous pas de la même façon? Tout simplement parce que nous ne croyons pas dans notre cœur que de la même façon que Jésus a porté nos péchés, il a porté nos maladies. Parce que si vraiment nous le croyons, eh bien, nous remercierons Dieu au lieu de lui demander et nous dirons « Seigneur, merci parce que je suis guéri il y a 2000 ans. Alléluia. La maladie peut attaquer mon corps. L'ennemi peut attaquer mon corps. Mais je sais que je suis guéri et je sais dans mon cœur que je ne mourrai pas avant d'avoir accompli tout le plan de Dieu pour ma vie. C'est un fait accompli. Ce n'est plus la peine de demander à Dieu de te guérir car il l'a déjà fait. » Une fois pour toutes, apprends à remercier Dieu pour ta guérison. Alléluia. Comment pouvons-nous croire dans ce verset? C'est à nous de faire notre part. Nous devons méditer sur ce verset. Nous devons le proclamer. Nous devons y réfléchir. Nous devons le confesser de la même manière que nous confessons notre salut. Psaume 139, 14 dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Tellement d'enfants de Dieu se regardent comme des échecs, comme des personnes n'ayant aucune valeur. Mais la Bible dit « Je suis ». Tu es une créature merveilleuse. Et toi, que dis-tu à ton sujet? Je suis un bon à rien. Oh, je suis nul. Oh, je suis gros. Oh, je suis ci. Oh, je suis ça. Apprends, bien-aimé, à dire et à reconnaître que tu es vraiment une créature merveilleuse en Jésus-Christ. Parce que le sang de Jésus a coulé, alors tu es une créature merveilleuse pour Dieu. Quand l'ennemi vient dans tes pensées pour te décourager, dis-lui, oui, c'est vrai ce que tu dis. Mais Dieu, lui, il dit que je suis une créature merveilleuse. Et dans Galates 3.13, il est dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire « Je suis racheté de la malédiction ». Qu'est-ce que la malédiction dans le monde? Premièrement, c'est la mort spirituelle, parce que lorsque Adam et Ève ont péché, ils sont morts spirituellement. Deuxièmement, c'est la maladie. Parce que avant, quand Adam et Ève ont été créés, il n'y avait pas de maladie. La maladie est entrée dans le monde avec le péché. Troisièmement, c'est la pauvreté. Quand Adam et Ève ont été créés, ils avaient tous leurs besoins pourvus, il n'y avait pas de pauvreté. La pauvreté est une malédiction. Mais si tu ne prends pas cette parole au sérieux, eh ben tu ne vas jamais t'en emparer, n'est-ce pas? Parce que notre terre promise est là, mais nous devons la prendre par la foi. Et nous savons tous, bien-aimés, que la terre promise, c'est une terre où coule le lait et le miel. Mais pour s'en emparer, nous devons faire face à de grands combats. Notre terre promise, c'est Jésus. Tout ce qu'il a fait à la croix du calvaire, il faut nous en emparer par la foi. Et croyez-moi, l'ennemi fera tout ce qu'il peut pour nous voler nos bénédictions. Et le combat, où se passe-t-il? Dans nos pensées. C'est pourquoi nous devons cesser de nous regarder avec les yeux de la chair, mais nous devons nous regarder avec les yeux de Dieu. Pour Dieu, il me voit guéri. Pour Dieu, il me voit racheté de la malédiction. Pour Dieu, il me voit juste. Pour Dieu, je suis une créature merveilleuse. Dans Romains 8, 16, il est dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Dieu est ton papa. Il est ton père. Et s'il est ton papa, ils vont prendre soin de toi comme n'importe quel papa humain prendra soin de son fils ou de sa fille. Jésus a dit, quel est le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demandait du pain? Mes amis, je vous demande aujourd'hui une réponse. Votre père terrestre vous donnera-t-il un cancer? Votre papa vous donnera-t-il le sida afin que vous lui démontriez votre amour? Quel drôle de père vous avez! Non, mes amis, Dieu ne donne jamais de mauvaises choses. Ceci est un mensonge qui vient tout droit du trou de l'enfer. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Ce qu'il donne à ses enfants est bon, agréable et parfait. J'ai de la peine quand j'entends les enfants de Dieu confesser « Dieu m'a donné un cancer afin de me faire grandir dans la foi ». Arrêtons d'accuser Dieu par nos paroles d'incrédulité. Apprenons à croire et à dire « Je suis guéri ». Et alors nous allons voir les choses changer dans nos vies. Psaume 91, 10. « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente ». Alléluia. Ça veut dire quoi? Je suis protégé par Dieu. Que peut me faire un homme? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Mes bien-aimés, ne laissons pas la peur envahir notre cœur, car la peur ne vient jamais de Dieu. Psaume 27, 3. Même si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Et tu peux proclamer, je te le certifie de tout ton cœur, que tu es sous la protection du Très-Haut. 1 Corinthiens 12, 24, 27. Vous qui êtes là et qui écoutez, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Et en tant que corps de Christ, j'ai reçu de la part de Dieu la mission de faire ses œuvres ici-bas. Lui, Jésus, il est au ciel maintenant, mais il vit en nous par l'Esprit. Et quand nous réalisons cela, alors cela donne un but à notre vie. Je suis le corps de Christ, je suis les mains de Christ. Je suis les pieds de Christ, je suis son cœur, je suis sa bouche, je suis ses yeux pour voir le monde, je suis sa bouche pour parler, pour encourager, je suis son cœur pour aimer, je suis ses pieds pour aller, je suis ses mains pour bénir, pour donner. Christ a fait de moi, je suis un ambassadeur. Il m'a appelé à parler de lui auprès des gens qui périssent. Lorsque tu pleures, Jésus pleure. Lorsque tu te réjouis, Jésus se réjouit. Lorsque tu souffres, Jésus souffre. Lorsque tu pèches, ah, tu le fais pécher peut-être puisque tu es son corps. Je suis le corps de Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Alors si le Christ vit en toi, pourquoi te permets-tu de faire des choses avec ton corps que Christ n'aurait jamais fait ici-bas ?